France Inter, le 18-20.
Avez-vous déjà essayé de rentrer à 6 dans, disons, 35 mètres carrés? Pas pour passer la soirée, hein. On parle d'y vivre. À l'heure de manger, forcément, c'est par groupe, à moins de s'asseoir par terre, parce que la table est de toute façon trop petite ou qu'elle est encombrée des affaires de tout le monde. Pour dormir, ce sont des matelas pour les plus petits, le clic-clac pour les parents, dans le meilleur des cas. Les habits qui sèchent prennent une place de dingue. Et puis, comment caser une armoire là-dedans de toute façon? Des cas comme ça, il y en a presque 9 millions en France. Ça s'appelle le surpeuplement ou la suroccupation. Et ce chiffre, il augmente. C'est ce qui ressort particulièrement du rapport sur le mal-logement de la Fondation Abbé Pierre. Disposer d'une chambre en soi et à soi, c'est devenu un luxe. Nous parlons des locataires, bien sûr, des gens en meublé, des gens en HLM bloqués dans une trop petite surface, mais nous parlons aussi, et ça c'est peut-être beaucoup plus neuf, des propriétaires. Je ne vous parle pas non plus des logements au-dessus de 9 mètres carrés, théoriquement au-dessous, théoriquement interdits. Derrière ces problématiques, il y a les coûts du logement, il y a les rotations trop lentes en HLM, il y a des constructions peut-être inadéquates, il y a la baisse des APL, la fin de l'encadrement des loyers. Est-ce que tout cela joue? Vous êtes les bienvenus pour nous raconter comment vous vivez, comment vous voyez les choses et ce que vous voudriez voir changer.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Florence, c'est vous la première. Soyez la bienvenue, on vous écoute.
Bonjour, bonjour France Inter, merci pour vos émissions. Voilà, je téléphone parce que je voudrais témoigner de ma fille qui est étudiante en alternance. Ça fait déjà 2 ans qu'elle vit moitié en province, moitié à Paris. Et en province, elle a trouvé des logements assez facilement. Et là, sur Paris, ça, c'est vraiment le délire. Ça fait depuis un mois qu'elle cherche un logement. Alors, c'est vrai que c'est pas long, mais c'est incroyable. On lui demande 4 mois de loyer plus un garant qui pourrait gagner pléthore d'argent, tout ça pour un studio entre 7 mètres carrés et moins de 20 mètres carrés pour 650 euros. Et 650 euros, c'est vraiment rien du tout, quoi.
Attendez, le prix du 7 mètres carrés, pardon Florence, parce que je suis très étonnée
400,
par le...
Le 7 mètres carrés, c'était 450 euros et c'est sur un site de particulier, voilà. On vous demande des garanties énormes. Alors, ma fille est étudiante, mais en alternance, ça veut dire qu'elle gagne un salaire. Hein. Elle a un salaire tous les mois. Elle a en moyenne 1300 euros. Et avec ça, elle ne peut pas se loger. Alors, elle voulait, elle est logée chez nous, hein, mais elle voulait prendre son indépendance et surtout gagner en trajet, parce que là, pour l'instant, elle a 4 heures de transport par jour pour aller travailler à son poste d'alternant, puisqu'elle est, elle est étudiante en province, mais donc elle travaille en alternance en grande banlieue. Et donc, pour réduire le trajet, elle voulait prendre un studio, mais là, ça va être complètement difficile. Et pour finir, elle rentre de Montréal, où elle a passé 5 mois. En sous-location, elle payait 900 dollars. Elle a trouvé sa sous-location en 5 jours. On lui a demandé aucune garantie. La seule garantie qu'on lui a fait, c'est de signer un bail et de, bien sûr, payer son loyer, quoi.
Voilà.
Et tout ça à Montréal, hein, et pas dans une province, à la campagne, enfin voilà.
On a bien compris, Florence, merci beaucoup pour votre témoignage. Et ce sont des chiffres qui sont intéressants parce que si je résume, votre fille gagne 1300 euros. Donc c'est pour ça que c'est important ce genre de témoignage. On parle pas de gens qui gagnent 300 euros ou 400, on parle de quelqu'un qui a un vrai salaire. Pour vous répondre, Florence, et pour discuter avec nous tout au long de ce téléphone sonne, Christophe Robert est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre et Pierre Madec également, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste à l'OFCE, spécialiste du logement. C'est là-dessus que je voudrais qu'on commence, Christophe Robert. 1300 euros. C'est quand même fou de ne pas pouvoir se loger dans une ville comme Paris quand on a un revenu de 1300 euros. Quand c'est son premier revenu, c'est pas un mauvais salaire pour un début dans la vie.
Absolument. C'est intéressant parce que, évidemment, la Fondation Abbé Pierre, on aide les personnes qui sont très mal logées. Là, on ne parle pas de très mal logement. La personne peut rester dans la famille, par exemple. Donc, mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à côté des 4 millions de mal logés, dont du surpeuplement dur, il y a 12 millions de personnes qui sont fragilisées par la crise du logement. Et en réalité, au-delà même des conséquences du mal logement dur, qu'on peut connaître de la rue jusqu'à des logements insalubres, il y a tout un pan de la population, y compris qui travaille, qui se retrouve impacté par ces difficultés de logement. Ça veut dire des trajets domicile-travail rallongée. Ça veut dire des dépenses trop importantes. On arrive à trouver un logement, mais on dépense 40 à 50% de son budget, ce qui a un impact sur les dépenses d'alimentation, de santé. Donc on est face à une situation de tension qui ne touche pas simplement les mal logés, mais aussi une autre partie de la population, et notamment ceux qui travaillent. Et franchement, il y a une quinzaine d'années, quand quelqu'un avait un travail, on disait, voilà, on va trouver le logement. Il y a 15, 20 ans, c'était encore le cas. Aujourd'hui, on voit se développer ce phénomène des travailleurs pauvres qui fait que même si on a un boulot, on peut se retrouver en situation de difficulté de logement, voire mal logé ou en situation de pauvreté.
Avant de donner la parole à Pierre Madec, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup dans ce que nous a dit Florence également. Ce sont ces 7 mètres carrés à 450 euros. Arrêtez-moi si je me trompe. Théoriquement, on n'a plus le droit de louer. On n'a pas le droit de louer un 7 mètres carrés. On est bien d'accord.
Interdit. Il y a un décret d'essence qui date de 2002 qui fixe quelques normes minimales, dont la taille de 9 mètres carrés.
Enfin, 9 mètres carrés pour une personne, 18 mètres carrés pour deux personnes, c'est ça ce que dit théoriquement la loi. Après, j'imagine, Pierre Madec, peut-être que vous pouvez répondre à cette question. Qui se plaint après? Honnêtement, quand on a besoin de se loger, qui vient dénoncer le propriétaire pour dire vous n'avez pas le droit de me louer? Certainement pas pour ce pilat, mon cagibi à 7 mètres carrés, non?
C'est un petit peu le problème. C'est-à-dire qu'on est sur le marché parisien et plus globalement sur ce qu'on appelle les zones très tendues, sur un grand déséquilibre entre l'offre de logement et la demande. De fait, les propriétaires bailleurs, c'est eux qui décident. On a souvent dit, on a décrié, par exemple, l'encadrement des loyers en niveau qui est issu de la loi Allure, qui là est... On ne sait pas trop où il en est, mais il y a eu une opposition du gouvernement pour dire qu'il devait continuer à s'appliquer à Paris, mais là, en tout cas, à l'heure actuelle, il ne s'applique plus. Les opposants à l'encadrement des loyers disaient « Mais regardez, les plaintes des locataires, en fait, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de recours, et donc du coup, tout va bien. » Il faut voir que quand vous êtes dans votre logement et que vous payez des loyers démentiels, vous n'allez pas attaquer votre propriétaire en justice. Donc c'est ce côté un peu déséquilibré entre, d'un côté, le pouvoir des locataires et de l'autre côté, le pouvoir des propriétaires bailleurs, qui mériterait d'être mis sur la table. Il y a eu des tentatives, notamment au travers de la garantie universelle des loyers, au moment justement des discussions de la loi Allure. Il y a eu une opposition forte, donc ça s'est pas fait. Mais rééquilibrer les rapports assez rapidement dans les zones les plus tendues, ça devrait être l'un des objectifs.
Et alors dans le cadre du rééquilibre du rapport, ce que raconte Florence aussi, et ça c'est ce que racontent à peu près tous les gens qui cherchent à se loger en location en ce moment et qui nous appellent, est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'on peut obliger le propriétaire à demander des garanties qui sont moins énormes que 4 mois de loyer, une caution ici, une caution là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire dans cette direction-là? Est-ce que ça a déjà été tenté ou pas?
Alors sur l'aspect légal, je laisserai répondre Christophe Robert, qui est plus compétent que moi. Dans mon souvenir, dans la loi Allure, il y a un certain nombre de règles qui sont fixées. Et typiquement, ce qui est demandé à la fille de Florence est illégal aussi. C'est-à-dire, on peut pas demander 4 mois de loyer en caution ou en garantie ou ce que vous voulez. Une fois de plus, qui va se plaindre?
Christophe Robert, tiens, oui. Pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on a le droit de demander réellement?
Non, effectivement, on n'a pas le droit de demander des garanties dans tous les sens. Ça a été contraint par la loi Allure. Le problème, mais vous l'avez bien pointé, c'est qu'effectivement, y compris pour les ménages mal logés, nous qu'on accompagne juridiquement pour faire valoir leurs droits, la crainte c'est, j'ai ça, mais si j'ai pas ça, est-ce que je vais pas me retrouver à la rue? Ou est-ce que je vais pas me retrouver dans une situation encore pire? Et c'est là où c'est très important d'avoir des protections juridiques. C'est là où c'est très important d'avoir une régulation du marché. Nous, c'est pas une idéologie, c'est pas dogmatique d'appeler à l'encadrement des loyers dans les villes tendues. C'est simplement dire, c'est tellement n'importe quoi. Aujourd'hui, quand on voit la personne qui nous contactait, 1300 euros, c'est quand même plus que le SMIC net. Le SMIC net, c'est 1150 euros. Donc, on n'est pas sur un tout petit salaire. On est sur un salaire que beaucoup de gens, dont beaucoup de gens disposent. Donc, ce décollage, ce décrochage entre les ressources des ménages, pour une bonne partie, et le coût du logement qui a flambé depuis le début des années 2000, il y a un moment où il faut qu'on fasse quelque chose. Et dire un choc de l'offre pourrait baisser finalement les niveaux de loyer à terme parce qu'on détendrait le marché, peut-être à une échelle 10-20 ans, mais on sait que aujourd'hui ça n'aura pas cet impact-là si tant est qu'il y ait un choc de l'offre.
Alexandre nous appelle. Bonsoir Alexandre.
Oui, bonsoir à tous.
Allez-y Alexandre.
Je vous appelle de Mérignac en Gironde. Et mon souci, c'est que je suis actuellement sans abri, et ce depuis 4 mois, impossibilité de me loger chez un bailleur privé parce qu'il me faut présenter 3 fiches de paye, que je n'ai pas, surtout depuis mes 4 mois à la rue, façon de parler. Au niveau des services sociaux et des bailleurs sociaux, j'ai fait absolument toutes les démarches possibles et inimaginables. Je bénéficie de la loi Dalo, du Fonds de solidarité au logement, des APL. J'ai 2 emplois qui se proposent à la clé. Le problème, c'est que je n'ai pas de logement. Donc, je ne peux pas aller travailler. C'est le serpent qui se mord la queue, vous voyez. Et ce qui m'attriste un peu, c'est de m'apercevoir, c'est, je le tiens d'un bailleur social, qu'il n'y a pas de logement disponible ici, mais il y a des logements vides qui sont réservés à la mairie, aux services sociaux et à la préfecture. Et en attente d'attribution. Et il y en a d'assez nombreux, des logements. Alors, moi, ce que je me demande, et la question que j'ai à poser, pourquoi ne loge-t-on pas les gens dans les logements quand ils sont libres? Et ce qui a fait avancer le bouchon, une dernière chose, j'ai eu l'honneur d'avoir une page presque entière dans Sud-Ouest, la page Mérignac, la semaine dernière, où mon sujet était évoqué, en particulier, et où la mairie répondait que ces logements étaient en cours d'attribution ou en réparation. Voilà. Et du coup, j'ai eu une réponse pas positive de la mairie, mais on m'a enfin répondu à mes courriers suite à cet article. Alors, on va se demander, est-ce qu'il ne faut pas qu'on parle de vous, vraiment, pour avoir un logement, et qu'on oublie tout le monde autour? Il y a ce côté-là, quoi. C'était ma question.
Et c'est ce que vous êtes en train de faire, parler de vous, Alexandre, et vous avez bien raison. Je voudrais juste préciser une chose, parce que Christophe Robert, vous allez répondre à Alexandre, il parlait tout à l'heure du DALO, il avait le droit au DALO, droit au logement opposable, voilà, pour les gens qui nous écoutent et qui comprennent bien. Qu'est-ce qu'on répond à Alexandre, Christophe Robert?
Je pense que, c'est touchant, parce que on s'aperçoit quand même que de plus en plus de personnes ont usé tous les recours possibles, y compris le droit au logement opposable, qui a quand même permis de loger prioritairement des personnes en difficulté, à peu près 130-140 000 depuis l'application de la loi en 2008. Donc ça a permis de remettre en haut de la pile des personnes qui passaient au travers des mailles du filet. Donc il ne faut pas dire que ça ne sert pas. Mais il y a pas mal de monde qui ont tout essayé, qui sont allés au-devant des travailleurs sociaux, qui sont allés au-devant des dispositifs. Et c'est là où on voit qu'on est face à un problème structurel. Et qu'on voudrait parfois nous laisser entendre que ce serait le problème des gens. Et on le voit bien dans le surpeuplement, les témoignages qu'on a recueillis dans le rapport de cette année. Des parents qui disent « j'ai honte parce que j'ai pas été en capacité d'apporter une solution à
et
mon
j'ai honte parce que mon fils fait ses devoirs dans les toilettes ». J'ai ça dans votre rapport.
Mais oui. C'est insupportable d'entendre cette honte des parents. Parce que finalement, on est face à un problème politique, un problème structurel qui date pas d'aujourd'hui, qui date de 20 ans peut-être, qui date de 30 ans.
Mais qui revient.
Mais le résultat, c'est
ce que vous êtes en train de dire.
C'est ce qu'on vient d'entendre avec Alexandre. Juste un point, si vous permettez. C'est fondamental ce que dit Alexandre parce que le logement, c'est pas un bien comme les autres. Si le logement a un impact sur la question de l'emploi, ça vient d'être dit par Alexandre, sur la santé, sur la scolarisation des enfants, le surpeuplement provoque de l'échec scolaire. Ça a un impact sur le vivre ensemble, sur les relations parents-enfants, sur les relations du couple, sur de la famille, sur le fait de pouvoir inviter des voisins. C'est seulement si on prend la mesure de tout ce que recouvre le logement qu'on pourra prendre des politiques à la hauteur des enjeux que recouvre le logement. Et autrement, là, on est en train de parler avec Bercy, avec des techniciens, etc. Et on ne répond pas aux besoins des personnes.
Pierre Madec, sur cette histoire de surpeuplement dont parlait Christophe Robert à l'instant, là où le bas blesse, c'est quoi? Alors j'imagine qu'il y a plusieurs facteurs, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de turnover dans les HLM? C'est-à-dire que quand les enfants s'en vont, il y a des grands espaces pour finalement des petites familles? Est-ce que ça veut dire qu'on ne prévoit pas, qu'on ne sait pas prévoir les familles recomposées, donc des familles qui ne sont plus du tout ce qu'elles étaient il y a une vingtaine d'années, comme le disait Christophe Robert? Le bas blesse où exactement?
Alors, ce qui est intéressant avec l'angle qu'a pris la Fondation Abbé Pierre cette année dans son rapport est de choisir le surpeuplement comme la composante du mal-logement est étudiée en majorité. Il y a plusieurs composantes du mal-logement, mais le surpeuplement est intéressant parce que elle est la résultante de deux choses. C'est d'un côté, la cherté des prix, et de l'autre côté, l'inadéquation entre l'offre et la demande de logement. En effet, on n'a pas été capable en France, mais c'est une problématique qui est partagée par un certain nombre de nos voisins européens, d'anticiper les transitions démographiques qui a pu avoir lieu. Il y a une multiplication de petits ménages, il y a des séparations, il y a des cohabitations, il y a tout ça. On a construit dans les années 60-70 des ménages, des logements potentiellement trop grands par rapport aux besoins actuels. Mais j'ai envie de dire, c'est le problème même du logement. C'est-à-dire que quand vous construisez un logement, là, les logements qu'on construit aujourd'hui, on a pris conscience de ça, donc on se met à construire des petits logements. Si dans 40 ans, les familles se recomposent, on divorce moins, on se retrouvera avec le même problème. C'est-à-dire la temporalité du logement et de la construction n'est pas du tout la même que la temporalité politique et surtout que la temporalité démographique. Donc on voit bien que ça pose un problème. Sur la mobilité résidentielle que vous avez soulevée, c'est un point très important. Quel que soit le parc de logement que vous considérez, que ce soit le parc social, le parc locatif privé ou le marché de l'accession, il n'y a pas de mobilité. Parce que les locataires ou même les propriétaires n'ont pas d'incitation à bouger.
Mais même dans le parc social, parce que normalement on doit bouger dans le parc social.
Oui, mais vous êtes locataire d'un logement social, vous allez dans le parc privé à côté de chez vous, vous allez payer 40, 50, 60% de loyer de plus. Quel est votre intérêt à aller dans le parc privé ? On vous dit, votre logement est trop grand, déménager dans un plus petit logement, ça veut dire que vous allez payer, si c'est un petit logement, c'est potentiellement un logement qui est plus neuf, donc les loyers sont plus élevés. Donc en fait, ça se trouve, vous allez payer la même chose pour un logement plus petit, donc l'intérêt est très faible. Et dans le marché locatif privé, qui était l'un des marchés où il y avait le plus de mobilité résidentielle, il y a un écart très important qui s'est creusé entre ceux qui sont là depuis très longtemps et ceux qui arrivent sur le marché. À Paris, il y a des écarts de 40% de loyer entre ceux qui sont là depuis plus de 10 ans et ceux qui arrivent sur le marché locatif privé. Une fois de plus, vous êtes locataire, vous êtes dans votre logement. Si vous déménagez, même pour prendre un logement de la même taille, vous allez payer 40% de plus. Donc vous n'avez aucun intérêt à bouger. Résultat, plus personne ne bouge, les logements ne se libèrent plus et il y a des problèmes tragiques tels que ceux qui sont décrits ici.
Christophe Robert, Alexandre faisait allusion au droit opposable au logement. Normalement, le droit opposable au logement, effectivement, c'est lorsqu'on cherche et qu'on ne nous propose rien. Donc on a le droit de venir en disant « vous devez me proposer quelque chose ». Pourquoi ça ne marche pas quand on est 6 dans 40 mètres carrés ? Parce qu'après tout...
Alors, le droit au logement opposable, c'est 5 catégories de personnes. Personne à la rue, personne menacée d'expulsion sans solution. Mais si on parle du surpeuplement, effectivement, aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier du droit au logement opposable, être reconnu prioritaire au titre de ce droit, eh bien, si vous êtes surpeuplé, il faut cumuler un autre handicap.
Ah.
Un handicap, par exemple, un autre handicap, une autre situation, c'est-à-dire avoir un enfant mineur ou une personne handicapée. Nous pensons que c'est pas sain de devoir cumuler ces deux situations-là, parce que les conséquences du surpeuplement sont extrêmement importantes sur la santé, la vie quotidienne, la scolarisation des enfants, etc. Et je voudrais quand même qu'on dissocie deux catégories. Vous avez évoqué plus de 8 millions de personnes en situation de surpeuplement, au sens de l'INSEE. Mais parmi ces plus de 8 millions, il y a surtout 950 000 personnes qui sont en surpeuplement accentué, c'est-à-dire qui sont avec un nombre de pièces manquantes d'au moins deux, c'est-à-dire deux pièces manquantes ou plus. Et les situations que vous évoquez de 6 personnes dans 30 mètres carrés ou 3 personnes dans 20 mètres carrés, ça c'est du surpeuplement accentué. Et là, les conséquences sont catastrophiques. Donc, quand Pierre Madec évoquait cette baisse de la mobilité, cette insuffisance des politiques publiques depuis un certain temps, je partage totalement cette analyse, mais c'est pour ça qu'il nous faut impérativement avoir des filets de sécurité, parce que si 8 millions de personnes sont touchées par un phénomène, dont 900 000 très durement, seuls ceux qui ont la chance d'avoir la famille, de bénéficier de la solidarité, des ressources, etc., peuvent s'en sortir. Mais ceux qui n'ont plus rien, comme les jeunes de moins de 25 ans qui n'ont même pas le RSA, ou ceux qui sont seuls, s'il n'y a pas les filets de sécurité de la puissance publique, eh bien, c'est la dégringolade, et ça peut être la rue, ça peut être le squat, ça peut être le bidonville, ça peut être le logement complètement pourri.
Et ça peut aller très très vite. Olivier nous appelle de Brest. Bonjour Olivier, bonsoir, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Je vous remercie. Bonsoir. J'avais donc trois remarques quant à cette problématique. C'est que effectivement, donc le fait d'avoir supprimé l'encadrement des loyers était une hérésie. Et c'est au contraire, il aurait fallu appuyer cette démarche. D'autre part, je pense qu'il faudrait augmenter le foncier sur les logements vides, ce qui est également une hérésie, hein, qu'on puisse payer également quasiment la même chose, hein, à quelque chose près. Mais bon, c'est pas assez puissant. Et augmenter l'amende de non-respect de la loi SRU quant à la construction de logements HLM. Et si je peux me permettre, moi j'habite, une petite remarque quant à ma condition, moi j'habite à Brest, qui est une ville qui est réputée pour ses loyers les moins chers de sa catégorie, donc ville moyenne, quoi, 150 000 habitants et 200 000 avec la zone urbaine. Et moi j'ai dû payer trois loyers d'avance, une caution, pour un logement qui, on s'embrouille tout le temps avec nos voisins parce que en fait il n'y a pas d'isolation, mais c'est du, en fait il y a du parquet sapin et du plâtre sous lattis, donc c'est-à-dire 2 mm plus 20 mm, donc on entend tout. Il n'y a pas de dalle béton, on ne parle même pas de ça. Hein. C'est vraiment, j'entends les discussions animées de mes voisins. Eux, quand je joue de la guitare, m'entendent. On s'est embrouillé une bonne dizaine de fois en 4 ans. Et je n'ai pas possibilité de retrouver un autre logement, étant donné que moi je suis artisan en dépôt de bilan, mais que je n'ai pas droit au RSA parce qu'il faut plus de 6 mois après le dépôt de bilan pour pouvoir faire la demande à RSA. Pareil pour les... Enfin, c'est non-sensique, et comme disait monsieur, dont j'ai perdu le nom, dans cette stratégie de la demande néoclassique, donc ça ne fonctionne pas. Il faut multiplier les lois qui aillent dans le sens de l'offre.
Merci.
Parce que peut-être ça prendra du temps, mais là c'est urgent, donc il faut commencer un jour ou un autre.
Olivier, merci beaucoup. On va prendre vos questions à l'envers, si je puis dire, commencer par la dernière, et la raison étant que Fabrice Abraham, qui est le directeur général de Guihoquet, qui veut parler l'encadrement des loyers, est en ligne, donc on parlera de l'encadrement juste après. Deux choses dans ce que propose Olivier. Augmenter les amendes, d'abord, c'est ce qu'il suggérait, Pierre Madec. Est-ce que ce serait significatif, important? Est-ce que ça aurait du sens? Ça servirait de levier ou pas?
Alors, la loi SRU, il y a des évaluations. Hein. On a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. Il y a des évaluations qui montrent que c'est une loi qui a fonctionné. On a produit pas mal de logements sociaux. Après, elle a ses défauts, la loi SRU. C'est-à-dire qu'elle va forcer certaines communes à produire du logement social, là où en fait on n'a pas besoin de logement.
Mais il y a encore certains maires qui sont capables de dire, et qui le disent ouvertement, y compris à l'antenne, moi je construis pas de logements sociaux parce que j'ai pas envie et je paierai l'amende.
Oui, mais vous pouvez multiplier par 5 l'amende, ils continueront à pas construire de logements sociaux.
Ce qui vient d'être fait, en fait.
Voilà.
C'est-à-dire que la loi de 2013 a multiplié par 5 les pénalités.
Et ça n'a rien changé. Donc le problème, c'est pas l'amende. Le problème, c'est à partir de quel moment on prend la main sur le logement à la place du maire. Pas se faire des copains, mais
Non, mais pourquoi pas,
pour forcer les maires à construire là où on considère que on a besoin de logements sociaux. Et il y a des endroits, notamment en Île-de-France, où on ne construit pas assez de logements sociaux et où il y en aurait besoin. Donc, à un moment, il faut qu'une autorité administrative, ça peut être notamment le préfet, et c'est la voie qui est prise, prenne la main à la place du maire pour construire, plutôt que d'augmenter le quota ou l'amende de la loi SRU. Il y a un point que votre auditeur souligne, qui, moi, je pense, est intéressant et qui n'est pas assez traité, c'est la question de la fiscalité immobilière. C'est-à-dire, on a une fiscalité immobilière, on parlait du foncier, mais quand on regarde la fiscalité immobilière dans son ensemble, une fiscalité qui est très incitative à la rétention de foncier, de bâti. Donc, on incite les gens à garder le plus longtemps possible leur terrain ou leur logement, parce qu'ils seront de moins en moins taxés. Emmanuel Macron, il y a un an, je m'en rappelle, à la Fondation Abbé Pierre, quand il était candidat à la présidentielle, était conscient de ça, a posé ce diagnostic et a dit « il faut inverser la logique ». On attend, faut espérer que cette mesure d'inversion de la logique et de se mettre à taxer de plus en plus les gens qui détiennent plus longtemps sera notamment dans le projet de loi logement qui devrait être présenté bientôt.
Christophe Robert, sur ces deux points et notamment sur le fait qu'il faudrait prendre la main effectivement sur le logement social.
C'est déjà, la loi le permet, ça se fait un petit peu. Après, c'est le courage politique de le faire. Ben, c'est pas facile pour un préfet de département d'imposer à un maire qui le côtoie tous les jours. D'ailleurs, on propose, nous, de mettre ce droit de préemption ou cette majoration des pénalités au niveau du préfet de région. Ça permet d'éloigner un petit peu. Donc, on peut faire mieux déjà avec les outils existants. Mais votre auditeur, c'est intéressant parce qu'il soulève... Il propose trois leviers, en quelque sorte. Et je voudrais qu'on soit un peu positif parce qu'il y a un certain nombre de villes, de communes ou d'agglomérations, de métropoles qui se sont engagées depuis longtemps dans une politique de ce type-là. C'est-à-dire en disant, comme Rennes, par exemple, mais le Grand Lyon a aussi réussi à faire quelques rééquilibrages locaux, de maîtriser un petit peu. Rennes, par exemple, était une troisième ou quatrième ville la plus chère. Elle est descendue à la 14e, 15e. Alors, comment ça fonctionne? Ben, ça fonctionne avec une vision du territoire, avec une vision des inégalités. Et puis en disant, ben, c'est quand même à nous de maîtriser un petit peu le foncier, ce qu'on veut en faire, pour qui, quels sont les niveaux de ressources des ménages dans notre commune, quelle est la mobilité, qui va venir, les étudiants, les personnes âgées. Et donc d'avoir une politique foncière depuis des décennies qui permette ensuite de construire la ville telle qu'on la veut. Qui permette par exemple de rééquilibrer entre l'Est et l'Ouest en disant, mais pourquoi tous les gens défavorisés doivent-ils être à l'est de la ville? Eh bien non, on va essayer de créer du logement social en centre-ville, à l'ouest de la ville. Donc on peut faire quelque chose. Mais pour faire quelque chose, il faut avoir envie de dire, on régule le marché, on intervient via le foncier, via la production de logements sociaux, de logements privés à vocation sociale. Or, il y a un peu d'idéologie dans notre pays qui fait que quand on commence à toucher à tout cela, on dit « Oh, laissez faire le marché, tout va bien se passer ». Et c'est le débat qu'il y a eu sur l'encadrement des loyers.
Alors justement, l'encadrement des loyers, venons-en, Pierre Madec, est-ce qu'on peut dire concrètement que pour le peu que ça a duré, ça a eu un effet ou pas? Est-ce qu'on peut dire ça?
Alors ça dépend de quel encadrement des loyers on parle. Il y a deux encadrements des loyers. Il y en a un dont personne ne parle, qui ne pose aucun problème, qui a été pris par un décret en 2012, qui est renouvelé tous les ans, qui a été re-signé cet été d'ailleurs, même avec le nouveau gouvernement, qui est un décret qui encadre l'évolution des loyers dans 28 agglomérations en France. Ce décret-là, ce que dit l'Observatoire des loyers en agglomération parisienne, c'est qu'il a eu des effets et les loyers à la relocation, donc au moment du changement de locataire, n'ont jamais aussi peu évolué que depuis qu'il y a le décret d'encadrement. Donc lui, il fonctionne, il pose pas de problème, donc voilà, lui, il reste. L'encadrement dont on parle, celui qui a été retoqué par la justice administrative à Lille puis à Paris, c'est l'encadrement en niveau des loyers. Et il faut être conscient que le tribunal administratif a pas dit on n'a pas le droit d'encadrer les loyers en niveau. Ce qu'a dit le tribunal administratif, c'est il faut étendre la mesure à l'agglomération parce que le marché du logement, c'est pas uniquement ce qui se passe à l'intérieur du périphérique parisien, c'est ce qui se passe dans la petite, dans la grande couronne. Donc il faut étendre la mesure. Le gouvernement a dit nous on veut continuer l'expérimentation à Paris, donc ils ont juste à étendre la mesure à l'ensemble de l'agglomération parisienne et on verra. Là pour l'instant c'est trop tôt pour évaluer parce que
donc on peut pas dire concrètement voilà ça a fait baisser
quand même
les loyers.
Ce que ça montre c'est que ça a permis de réguler les abus. Et c'est ce pourquoi la mesure était faite. La mesure, elle avait deux objectifs, c'était la chasse aux abus, les loyers trop élevés, les fameux, alors pas 7 mètres carrés parce que c'est interdit par la loi, mais les 10 mètres carrés loués 40 ou 50 euros le mètre carré, donc ça, la loi disait c'est interdit. Et le deuxième objectif, c'était, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des différences de loyers très importantes entre les gens qui arrivent et les gens qui sont déjà dans le marché locatif, et le deuxième objectif, c'était la convergence des loyers. Ça n'a pas duré assez longtemps pour qu'on puisse évaluer la mesure. Le gouvernement a l'air de vouloir la prolonger, donc on verra.
Bonsoir Fabrice Abraham.
Bonsoir.
Vous nous avez écouté bien sagement pendant un bout de temps, une bonne vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Vous êtes donc le directeur général de Guihoquet et vous dites que l'encadrement des loyers n'a pas fait baisser les loyers. Mais comment vous pouvez le savoir, vous, puisque le laps de temps a été extrêmement court?
Oui, je suis un acteur de l'immobilier dans le parc privé. Je ne fais pas de politique. Suis accommodé depuis 30 ans. Je m'accommode de tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche, de droite, quand bien même ils seraient ni de gauche ni de droite. Ce que j'ai observé sur l'encadrement des loyers, qui partait d'une bonne intention, c'est-à-dire que l'accès au logement en France, particulièrement dans les zones tendues, est très difficile et frappe en premier lieu les jeunes qui sont souvent en première ligne de deux crises, la crise de l'emploi et la crise du logement. Mmh. Et d'ailleurs, ces jeunes, quand on les écoute, ils nous disent que l'accès au logement est bien plus difficile pour eux que pour leurs parents au même âge. Mmh. J'attendais beaucoup de l'encadrement des loyers qui a été mis en œuvre sur Paris à titre expérimental, faut-il le rappeler, le 1er août 2015. Donc le propre d'une expérimentation, c'est que j'en attendais au moins un premier bilan. Un bilan que nous n'avons pas eu du gouvernement, par exemple. J'ai pas entendu d'analyse. En revanche, je me suis aperçu sur le terrain qu'il n'avait pas ou peu d'impact sur le locataire. Je vous rappelle que l'encadrement des loyers touche que la relocation et que le locataire qui reste dans ce logement ne voit pas les bénéfices de l'encadrement des loyers. En revanche, il a eu un effet dévastateur sur les propriétaires, ces investisseurs privés, qui, pour certains d'entre eux, ont revendu le logement qu'ils louaient jusqu'ici pour en racheter un autre ailleurs, bien loin de l'encadrement des loyers. Mmh. Donc, nous nous sommes retrouvés avec moins d'appartements à proposer à la location aux candidats locataires. Donc, cet encadrement des loyers a eu pour première conséquence...
Donc un effet pervers, parlez d'un effet pervers.
Le parc locatif privé, et donc on était loin du but que l'on poursuivait au début.
Merci beaucoup Fabrice Abraham pour ce témoignage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a pu observer à l'OFCE, Pierre Madec, cet effet pervers, en fait, je vends mon appartement, j'en rachète un autre là où il n'y a pas d'encadrement?
Alors c'était un effet qu'on pouvait anticiper au moment de la mise en place du dispositif. On s'est dit potentiellement il pourrait y avoir des investisseurs investisseurs privés qui partent du marché locatif pour parce que justement on encadre et donc ça fait baisser leur taux de rendement. Bon, le fait est que moi j'adorerais accéder aux données de Guy Hocquet parce que nous on n'a pas été capable de chiffrer précisément le nombre de logements qui avaient quitté le marché locatif privé. Il y a sûrement un effet. Après, il faut voir que c'est uniquement sur des flux de logements, c'est pas sur du stock, et qu'en plus, les plafonds qui sont fixés par l'encadrement sont quand même des plafonds qui restent relativement hauts. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une baisse du taux de rendement et que les investisseurs se disent « Ouh là là, je m'en vais du marché », c'est même pas « j'investis pas », c'est « je m'enlève du marché », fallait qu'ils louent à un prix totalement démentiel pour qu'il y ait un impact très très fort sur leur loyer.
Christophe Robert, sur cette question ?
Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir un débat apaisé sur la question. Les pays qui appliquent un encadrement sous une forme ou une autre, comme en Allemagne, comme en Suisse, ça n'a pas posé de problème majeur au titre de l'investissement. Juste dire cette application de la loi Allure, en fait, elle concerne que les prix extrêmement élevés. Mmh. Et j'ai entendu, je ne parle pas du responsable de Guy Hocquet, mais j'ai entendu des choses incroyables en disant « on bloque les loyers ». Mais on ne bloque pas les loyers. On fait juste baisser un tout petit peu les loyers excessifs dans les villes très tendues parce que ça ne passe plus pour les jeunes, ça vient d'être dit, pour ceux qui ont des ressources faibles, y compris quand ils ont un emploi. Et donc, il faut bien qu'on garde raison. Quand Benoît Apparu avait mis en place la taxe Apparu en disant « c'est pas possible de louer à 40 euros du mètre carré », c'était parce qu'on disait « dans une ville comme Paris, ça s'arrêtera jamais ». Parce qu'il y a des gens qui vont acheter de partout, du monde entier. Et donc, si jamais on ne réserve pas des logements accessibles à ceux qui font vivre la ville, à ceux qui travaillent dans la ville, à la diversité de la population que doit pouvoir contenir une grande capitale comme Paris. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des investisseurs en moins. Peut-être, ça me paraît étrange aussi, parce que c'est un investissement incroyable dans la ville de Paris. Mais dans ce cas-là, il faut quand même que on puisse limiter les excès. Donc c'était ce que proposait cette loi. Après, moi, nous faisons partie à la Fondation Abbé Pierre de ceux qui disent « mais c'est pas que comme ça qu'on va s'en sortir, il faut produire du logement social, il faut produire du logement privé à vocation sociale, il faut rénover une partie des logements, il faut supprimer les petits logements de 5 ou 6 mètres carrés qui ne sont pas des logements. » Donc c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique du logement que l'on appelle de nos voeux, mais quand même, et on a vu une mobilisation incroyable des secteurs économiques contre ces mesures, avec des campagnes très très fortes. Or, il faut qu'on n'oublie pas que derrière, on doit loger des personnes.
Puis, rappelons quand même que l'encadrement des loyers permet également aux propriétaires qui louent beaucoup moins cher que le marché de s'aligner un petit peu sur le marché.
Donc, d'augmenter éventuellement leur loyer de leur côté. Bonsoir Claire. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Claire, vous nous appelez du Vaucluse et on vous écoute, allez-y.
Oui, alors moi je voulais témoigner parce que je suis propriétaire.
C'est pas grave, moi aussi, vous savez, c'est pas grave.
Voilà, et je suis propriétaire d'un logement, en fait, que j'ai acheté grâce à l'héritage de ma grand-mère. Je n'y habite plus, j'ai déménagé pour emménager avec mon conjoint. Et je me suis posé la question à l'époque de comment louer mon appartement, à quel prix, en fait. Je le loue dans les Alpes-Maritimes, donc je pouvais mettre les prix très très haut. Vous m'entendez, hein ?
Oui, je vous entends, et on vous écoute, oui. Et on vous suit. Voilà. Il y a un vrai suspense.
J'ai pas de travail fixe. J'ai jamais gagné plus que le SMIC et jamais en CDI. Et je me suis très souvent, quand je cherchais un appartement, retrouvée à avoir des propriétaires qui me demandaient de gagner trois fois le montant du loyer dans les Alpes-Maritimes, c'est-à-dire 1600 euros. Mmh. C'est impossible. J'aurais jamais cherché à louer un studio si j'avais gagné ça. Donc quand j'ai loué mon deux pièces avec jardin plus parking, j'ai pris la décision de ne le louer que ce qu'il me coûtait. Mmh. Et je pense que c'est aux propriétaires de se réveiller. Les propriétaires comme moi, qui ne sont pas riches, mais qui sont propriétaires d'un logement, réveillez-vous et louez l'appartement ou la maison au prix qu'il vous coûte et pas plus. Mmh. Les gens ne peuvent pas.
Merci.
Payer plus.
Merci, voilà. Merci beaucoup Claire, on a bien compris ce que vous disiez. Forcément, à côté de moi, Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre faisait oui avec la tête et approuve. Il n'y en a pas beaucoup des propriétaires comme Claire, mais il y en a.
Si. Et vraiment, il ne faut pas jeter la pierre aux propriétaires, parce que d'abord, on a besoin d'eux. On a besoin que des gens investissent, par exemple, pour louer.
Un propriétaire n'est pas riche, forcément.
Oui. Et puis, on a besoin. Bien sûr, on a besoin, parce que le logement social ne pourra pas régler tous les problèmes, surtout avec les tensions qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, il y a pas mal de propriétaires qui viennent auprès de la Fondation Abbé Pierre leur dire « Moi, je suis prêt à le louer moins cher que le marché, à condition que vous me garantissiez que les loyers vont bien rentrer, que je récupérerai mon logement de bonne qualité et que je sois garanti, par exemple, contre la vacance du logement. » En gros, il n'y a pas que l'argent qui compte pour les propriétaires. Il y a des investisseurs
pour qui c'est l'enjeu. Et garanti contre les mauvais payeurs aussi,
oui,
ou pas ?
Oui. Et très sincèrement, il existe aujourd'hui des dispositifs d'aide pour ces propriétaires ou de défiscalisation pour ces propriétaires qui sont pas assez attractifs, ces dispositifs. Mais quand on a fait un rapport pour la ministre Coste l'année dernière sur ce sujet, pour comment on pouvait mieux mobiliser le parc privé à vocation sociale, on a pu constater qu'il fallait des compensations financières, des aides, la défiscalisation, un crédit d'impôt, mais qu'il fallait surtout une très bonne garantie contre les risques d'impayés, contre les risques de dégradation du logement. Et il y a beaucoup de monde qui se manifeste dans ce sens-là. Parce que je crois que beaucoup de nos concitoyens ont conscience que pour la jeunesse, c'est difficile. Pour ceux qui veulent créer leur couple, se fonder une famille, avoir un premier enfant ou changer de logement parce qu'on veut avoir un deuxième. On revient sur le surpeuplement. Et tout à l'heure, il était évoqué l'idée de cette garantie universelle des loyers qu'avait été, donc Pierre Madec l'évoquait tout à l'heure. Je crois vraiment qu'on peut avancer vers une garantie plus importante qui pourrait permettre de sécuriser les accédants à la location qui n'ont pas la chance d'avoir des garants, par exemple, mais aussi les propriétaires, les protéger. Donc il y a du donnant-donnant à trouver.
C'était le pendant de l'encadrement des loyers. C'est-à-dire les deux mesures sont un peu arrivées en même temps. On a retoqué la garantie universelle, on a gardé l'encadrement, mais il faut voir que les deux étaient un peu les deux jambes de la loi Allure. C'est dommage que les deux ne soient pas arrivés à échéance.
Mais alors juste une dernière chose, puisqu'il nous reste 15 secondes, sur l'encadrement des loyers, quand même, est-ce qu'on pourra y revenir ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est sur la table ? Où on en est finalement ? Qu'est-ce qui va se passer avec cette histoire ?
Là, pour l'instant, le gouvernement a fait appel de la décision du tribunal administratif et a réaffirmé sa volonté d'évaluer le dispositif à la fois à Paris et à Lille. Le fait est que la seule façon de l'évaluer, c'est de l'étendre à l'agglomération parisienne. Donc il n'y a plus qu'à espérer qu'il soit étendu à l'agglomération parisienne, ce qui évitera en plus les mécanismes tels qu'ont été décrits par le responsable de Guy Hoquet de réallocation de l'investissement, par exemple en petite couronne où il n'y a pas d'encadrement des loyers.
Et puis il faut l'étendre aux 28 agglomérations, c'est-à-dire plus de 1000 communes qui étaient prévues par la loi Allure.
Allez, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup, merci d'avoir participé au téléphone sonne ce soir. Merci à tous pour vos nombreux appels.